Merci d'être venu. On reconnaît là les courageux. Donc aujourd'hui, c'est la dernière séance, si je puis dire. En tout cas, c'est le quatrième volet de cette petite rétrospective ou de cette petite présentation sur l'histoire des théories du droit de la résistance. Et ainsi que je souhaiterais le faire, c'est à la fois indiquer un petit peu le terme de l'histoire qui m'a intéressé et vous donner aussi un peu une idée de la manière dont l'histoire va se prolonger ensuite, sachant que, modestement, mon propos se termine avec la dernière grande justification de type monarchomaque, qui est celle de Locke. Alors, la semaine dernière, je me suis intéressé à la manière dont la philosophie politique moderne, celle de Hobbes, tout particulièrement, avait cherché à répondre par un certain nombre d'objections aux principaux arguments qui étaient développés par la pensée monarchomaque. Et je vous rappelle que cette pensée des monarchomaques que j'ai étudiée il y a une quinzaine de jours proposait de justifier la possibilité de la résistance ou, pour le dire dans un autre vocabulaire, l'idée qu'il était possible de désobéir à son souverain lorsque celui-ci n'avait pas respecté les termes d'une alliance. Alors j'ai notamment montré que le principe général de la critique qui est adressée par Hobbes à ses théories monarchomaques reposait sur la manière qu'il avait de définir les conditions qui devaient être respectées pour préserver la paix civile et la stabilité du corps souverain, du corps politique. En un mot, prévenir les risques des guerres civiles supposait que l'on restaura l'unité et le caractère absolu de la volonté souveraine. Autrement dit, un seul souverain et une puissance dans son domaine d'exercice illimité. À ses yeux, ce qui est le facteur de division, laquelle division entraîne la fragilisation du souverain et donc ruine la possibilité d'une coexistence pacifique, ce qui est facteur de division, tout ce qui est facteur de division entraîne, et bien justement, la remise en cause de la paix dans les échanges entre les individus. Donc le principe général de la thèse monarchomaque, je vous le rappelle, c'est de dire qu'il existe un problème d'interprétation des termes de l'alliance. Et que, ma foi, je vous rappelle qu'ils sont essentiellement protestants, ces protestants, à l'origine en tout cas, revendiquent la possibilité de proposer une lecture différente de ce que doivent être les termes du contrat qui unit le souverain à Dieu et à son peuple. Autrement dit, il est le monarchomaque, celui qui reconnaît qu'en cas de désaccord, c'est-à-dire, dans la situation où, moi, en tant qu'individu, je ne reconnais pas les raisons qui justifient certaines décisions du monarque, eh bien, les termes de ce mandat sont brisés, et il est même parfois de mon devoir de désobéir et d'essayer, dans la mesure de mes moyens, de renverser, sinon de tuer le roi. Alors, aux yeux de Hobbes, cette possibilité d'une lecture controversée des sources de l'autorité souveraine, qu'il s'agisse d'ailleurs de l'interprétation des textes sacrés, qu'il s'agisse de l'interprétation des lois fondamentales du royaume, c'est ce que j'avais montré la semaine dernière, eh bien cette possibilité d'une lecture controversée, elle est portée toujours par la rivalité entre des autorités qui entrent en compétition. Autrement dit, il y a division lorsque des instances prétendent légitimement proposer une interprétation vraie de ce que doit être le devoir du souverain, de ce que doit être le sens de l'écriture sacrée, etc., etc. Petite parenthèse, je reviens sur un point qui est très important, parce qu'on va le retrouver, avec Locke. Ce qui caractérise les textes sacrés, comme je l'ai dit, c'est que, eh bien, ceux qui vont interpréter ces textes vont parler au nom d'eux. Ils vont dire, Dieu a dit que, il faut comprendre ceci que Dieu aurait dit. Bref, l'interprétation des textes sacrés, tout comme l'interprétation des lois fondamentales du royaume, suppose une parole par représentation. Je vais m'exprimer au nom de celui qui a autorité pour dire « Voilà comment il faut lire ce texte sacré. Voilà comment il faut lire ici ces anciennes constitutions immémoriales qui définissaient déjà au XIIIe siècle la répartition du pouvoir entre le Parlement et le roi. » Autrement dit, celui qui parle, parle au nom de Dieu, parle au nom des premiers auteurs de la Constitution première. Bref, dans tous ces cas, la parole est une parole par procuration. Car celui dont on parle et celui que l'on fait parler n'est pas là pour parler. Dieu, en l'espèce, n'est pas là pour dire « oui, vous avez raison, non, j'ai tort ». De la même façon que ceux qui ont rédigé les termes de cette première grande constitution anglaise ne sont plus là pour dire. Bref, l'autorité de la parole prononcée, elle est en quelque sorte liée à l'autorité de celui qui parle. Le fait que ce soit le roi, ça n'est pas tout à fait la même chose que le fait que ce soit un petit chef d'une secte religieuse parmi bien d'autres. Autrement dit, Hobbes reconnaît que dans une telle prolifération de tous ceux qui revendiquent le droit de dire Dieu a dit ça, les textes de la loi constitutionnelle fondamentale, ancienne et immémoriale disent ça, eh bien on rentre dans un espace, ça n'est pas son terme, mais c'est ce que ça veut dire, de conflit. De conflit qui est infini. Car, et c'est important de le rappeler, c'est très précisément la liaison ici entre la position d'autorité de celui qui parle et ce qu'il dit qui va faire la force de ce qui est dit. Autrement dit, je peux bien dire la même chose si c'est le président de la République qui le dit ou si c'est moi, vulgaire anonyme, eh bien, ce qui sera dit n'aura pas du tout le même impact. Eh bien, d'une certaine façon, Hobbes nous dit la même chose, et il est très moderne en ce sens. Parce qu'il nous dit ceci précisément, que ce qui va faire la vérité de la parole prononcée, ce n'est pas tellement le contenu de ce qui est dit, mais c'est d'abord et avant tout le rapport entre ce que je dis et ce que je suis en tant que je dis ce que je dis. Autrement dit, l'espace des interprétations est un espace où s'affrontent des individus qui détiennent, excusez-moi ce vocabulaire un peu anachronique, mais c'est tout à fait ça, des positions d'autorité différentes. Et c'est ces confrontations de positions d'autorité qui entretiennent les divisions et les conflits. Mais, en fait, Hobbes va encore plus loin. Il nous dit, dans un tel contexte, le conflit ne peut pas s'arrêter simplement à un échange de mots. À un moment donné, eh bien, la guerre devient un autre moyen de continuer par des instruments beaucoup plus violents ce que la confrontation des mots ne permet pas de résoudre. Et d'une certaine façon, quand on reprend l'histoire des guerres civiles au XVIIe siècle, et notamment la manière dont s'enclenche la confrontation militaire entre le Parlement et le roi, eh bien on peut dire que d'une certaine façon ça donne raison à Hobbes. Donc, l'objection principale que Hobbes adresse au monarchomaque, c'est bien celle-ci. Ils ouvrent une boîte de Pandore qui est précisément un lieu public où les controverses vont être infinies et où le règlement de ce conflit ne pourra advenir, que dans la violence des moyens de la guerre. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous vous souvenez, il qualifie ses opinions des monarchomaques, des parlementaristes, etc., je ne reviens pas sur cette histoire, d'opinions séditieuses, tout simplement parce qu'elles nourrissent, entretiennent, reconduisent la division et le conflit. Donc, ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Hobbes ne croit pas, et ça aussi, me semble-t-il, c'est assez moderne, quoique très pessimiste, Hobbes ne croit pas à la seule force des arguments. Ou plutôt, pour être plus rigoureux, il ne croit pas que ce qui fait ici la force des arguments, c'est précisément que la valeur intrinsèque de ces arguments. Au fond, ce qui accompagne, ce qui va appuyer la force des arguments, c'est aussi la force des positions. C'est-à-dire la force des positions depuis lesquelles, eh bien, le Premier ministre, ou le roi, ou le Parlement, ou le speaker dans le Parlement, détient justement une parole d'autorité qui va permettre d'imposer le sens d'une position. La force d'autorité des paroles qui sont prononcées est donc la force de la position d'institution de chacun qui tient ses positions, ses arguments. Alors vous comprenez bien que dans ce contexte, eh bien, la seule manière de régler le différend, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule position d'autorité. Si effectivement la valeur de l'argument est indexé au moins en partie sur la force de la position de celui qui tient cette parole, eh bien, d'une certaine manière, s'il n'y a qu'un seul monarque, et donc s'il n'y a qu'une seule parole autorisée, il n'y aura plus de conflit. Et d'une certaine façon, eh bien, nous aurons réglé ce qui est source de division. Alors évidemment, vous voyez bien ici où le bât blesse, si on confronte cette position avec celle que nous aurions envie de défendre, et qui va être aussi celle de Locke, c'est que c'est très précisément ce lien entre la parole autorisée et l'autorité de la parole qui va être remise en cause par Locke, et qui va permettre de poser tout autrement la question du droit individuel, légitime, à entrer en résistance. D'une certaine manière, entre Hobbes et Locke, ce qui se passe, et pourtant Hobbes et Locke sont contemporains, hein, ils sont contemporains puisque Hobbes va mourir 10 ans avant la Glorieuse Révolution, Locke connaîtra les termes de la Glorieuse Révolution, puisqu'il va franchir, à peine, mais il va franchir le tout début du XVIIIe siècle. Ce qui me semble important, c'est que entre les deux, c'est la manière de poser le statut de l'individu et de l'autorité de l'individu qui va se déplacer. Et ce déplacement, eh bien, il a des conséquences tout à fait considérables sur la manière de justifier la possibilité du droit de résistance. Et on peut considérer qu'on arrive là quasiment au terme de cette histoire de la lecture monarchomaque, de la possibilité de résister au sourd. La question qui se posera ultérieurement est une autre question, je l'indiquerai juste à titre de conclusion, mais la question sera d'une toute autre nature. Au fond, ce que je voudrais maintenant vous expliquer, c'est que de Hobbes à Locke, eh bien, c'est la raison qui va devenir le juge, en dernière instance, de la possibilité de dire que je rentre en résistance. Autrement dit, on va franchir un cap supplémentaire dans la manière de rendre compte de cette possibilité qui va être octroyée à l'individu de dire pour quelles raisons il ne se reconnaît pas dans les décisions du souverain et, à ce titre, peut rentrer en résistance. Je signale au passage, juste, c'est une petite parenthèse que je fais, mais qui me semble importante, c'est que Le problème de la désobéissance civile, tel qu'il va être posé au XIXe siècle par les grands premiers penseurs émotivistes, notamment Thoreau et Emerson, c'est très précisément cette idée que l'individu, à un moment donné, peut donner les raisons pour lesquelles il ne se reconnaît pas dans les décisions de la République ou du régime qui le gouverne, raisons qui peuvent le conduire à entrer en dissidence, à désobéir. Et dans le cas de Thoreau, c'était ne pas payer ses impôts, notamment. Alors, cette histoire-là, elle va jusque-là. Alors, je ne la raconte pas jusque-là, parce que là, pour le coup, ce n'est pas quatre séances d'exposé qu'il faudrait, c'est beaucoup plus. Mais voilà, on a la ligne, et la ligne, elle vient directement d'une certaine lecture de l'individualisme tel qu'on va le retrouver chez John Locke. Alors, qu'est-ce qui se passe avec John Locke ? Alors d'abord, je voudrais rappeler quelques éléments de contexte pour que vous compreniez bien que même en étant contemporain de Thomas Hobbes, John Locke est en même temps déjà dans une autre situation, dans un autre contexte. Alors d'abord, à la différence de Hobbes, Locke va connaître les épisodes de ce qu'on appelle la Glorieuse Révolution, c'est-à-dire, pour le dire en très peu de mots, le fait qu'en 1689 est installé sur le trône Guillaume d'Orange, dit aussi le Hanovrien, qui vient à la place de Jacques II, Jacques II qui était le fils de Charles II, Charles II qui était le fils lui-même de Jacques Ier, et Charles II qui a été élève de Hobbes, qui lui a fait des cours, qui lui a enseigné des cours de mathématiques alors qu'il était en exil. Bref, ce moment est un moment tout à fait fondamental parce qu'il arrive au terme d'une série de discussions extrêmement complexes, extrêmement houleuses, virulentes, qui vont traverser les espaces de la société civile, mais aussi le Parlement, et qui consistait à savoir quelles étaient les raisons légitimes que nous pourrions avoir d'exclure le futur prétendant légitime, à savoir Jacques II. Il était légitime parce que tout simplement il était le fils de Charles, et qu'il était dans la continuation des Stuarts, mais qu'il avait évidemment une particularité, c'est qu'il était papiste, à savoir qu'il avait épousé la religion catholique et qu'à ce titre, il reconnaissait l'autorité du pape. Alors, cette grande période qui dure plusieurs années, où les discussions sont assez intenses, s'appelle la période des querelles sur le statut de l'exclusion du roi. C'est absolument passionnant, c'est un débat qui a été très très bien analysé par les historiens, et notamment les historiens anglais qui sont quand même sur ce plan remarquablement minutieux, et où on voit que derrière la question constitutionnelle, puisque on sait déjà dans toute cette période que notamment les Tories qui sont, si vous voulez, les monarchistes, les tenants d'une monarchie dans l'histoire de la Révolution, vont finalement se rallier à la position Whig, libérale entre guillemets, à condition que l'on trouve une formulation qui permette de dire que c'est non pas Jacques II qui a été exclu du trône, mais il a abandonné le trône, et en raison de cet abandon, on l'a effectivement, on a pourvu le trône en faisant appel à la dynastie du Hanovrien. Donc, toutes ces questions qui sont à la fois des questions rhétoriques, des questions juridiques, mais aussi, bien évidemment, des questions politiques de premier ordre, puisque derrière ces différents aspects de la controverse, la question fondamentale, c'était celle-ci. Pouvait-on autoriser l'accès au trône à un souverain qui n'aurait pas la même religion que son peuple? On retrouve ici quelque chose qui va se jouer dans des termes différents, mais qui n'est pas si éloigné, au moins dans la formulation générale que j'en donne, de ce qui a pu se passer au grand moment des guerres de religion sur le continent européen. Ou simplement ici, la réponse, elle était donnée, c'est non. Mais c'est un non qui impliquait effectivement des massacres, des guerres, etc., etc. Il n'était pas possible de penser l'unité du corps politique sans cette union dans la croyance commune, qui était d'abord celle du souverain. Autrement dit, pour revenir à la question qui était ici posée, est-ce qu'on pouvait envisager une structure politique où l'Église, qui depuis Henri VIII était sous la tutelle du pouvoir politique, avec un roi qui était lui-même le premier représentant de l'Église, est-ce qu'on pouvait envisager que cette Église soit en quelque sorte constitutionnellement représentée par quelqu'un qui reconnaissait l'autorité du pape? Alors vous voyez bien que une telle reconnaissance, ça impliquait ipso facto le renouvellement d'un conflit d'autorité tout à fait considérable, puisque c'était se remettre en quelque sorte sous l'orbite de l'autorité du pape, au moins pour ce qui est du spirituel, et c'était évidemment renouer avec des problèmes de rapport de force qui avaient été ceux de pas mal de royaumes sur le continent européen et que l'Angleterre avait décidé de trancher par cette domination du pouvoir religieux par le pouvoir politique. Alors évidemment, la raison pour laquelle l'accord se fait sur la personne de Guillaume d'Orange, c'est entre autres qu'elle permet de régler ce problème. C'est-à-dire que l'exclusion de Jacques et l'arrivée de Guillaume permet, en quelque sorte, de conserver cette structure caractéristique du rapport entre le politique et le religieux, qui est celle que l'on connaît depuis Henri VIII. Alors, à l'occasion de ces débats, il y a quand même quelque chose de très important qui se joue également, parce que c'est aussi dans ce contexte des querelles de l'exclusion qu'un autre débat très important, et on voit bien pourquoi il est conduit en même temps, se développe, et qui porte précisément sur la question de la tolérance. Et c'est évidemment ce point que je voudrais maintenant évoquer à propos de Locke, parce que vous allez voir qu'il joue un rôle tout à fait décisif dans le déplacement que j'indiquais tout à l'heure. Alors John Locke publie en 1686, c'est-à-dire exactement 3 ans avant l'installation de Guillaume d'Orange sur le trône, une lettre qui s'intitule « La lettre sur la tolérance ». Mais il faut savoir qu'il avait publié en 1667, donc bien longtemps avant, une vingtaine d'années avant, excusez-moi, je ne suis pas très bon en calcul mental, un autre texte qui s'intitulait justement « Essai sur la tolérance ». Autrement dit, la question de la tolérance est une question qui le préoccupe depuis très longtemps. Et je voudrais montrer que cette position de Locke sur la tolérance, eh bien, elle va accomplir, en quelque sorte, tout en reconnaissant certains aspects de la position de Hobbes, un déplacement tout à fait considérable, qui est à l'origine de ce qu'on pourrait appeler la conception moderne de la question du droit de résistance. Alors, je voudrais d'abord faire quelques remarques générales sur cette lettre sur la tolérance. Donc, je vais surtout parler du texte de 1686. Si vous lisez cette lettre, vous serez surpris. Parce que d'abord, vous ne trouverez pas dans cette lettre ce qu'on pourrait appeler une apologie de la liberté individuelle de conscience. Par exemple, vous serez surpris de vous rendre compte que Locke justifie la nécessité de la tolérance par des arguments qui n'ont rien à voir avec la question de la liberté de conscience. C'est-à-dire que, vous allez voir, Locke arrive à cette position libérale par des arguments qui consistent à réfléchir sur la nature du pouvoir politique et sur ce que c'est que la croyance religieuse. Et c'est un petit peu ce point de départ que je voudrais ici développer. Alors d'abord, toujours dans les sources d'étonnement, si vous lisez le texte, vous allez voir que Locke, dans ce texte, nie, mais vraiment de façon très claire, très explicite, que la tolérance puisse être accordée aux athées et aux catholiques. Autrement dit, quand on parle de l'être sur la tolérance, il faut bien comprendre qu'il faut se rapporter à un contexte qui est quand même très particulier, et que ce contexte très particulier fait que Locke n'a pas le sentiment d'une contradiction entre revendiquer la tolérance et en même temps affirmer que cette tolérance, on ne peut pas l'accorder aux athées, par exemple. Et oui, ce qui montre bien la complexité du débat. Donc, en fait, ce que va chercher à nous proposer ici John Locke, c'est l'idée que, au fond, le roi doit être tolérant parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et c'est cet argument que je voudrais ici développer. Cet argument, il est double. Premier élément de l'argument. Selon Locke, il est impossible au magistrat, avec les moyens de coercition qui sont les siens, il est impossible de contraindre les sujets à croire ce qu'ils ne veulent pas ou ce qu'ils ne peuvent pas croire. Il lui dit la chose suivante. Au fond, contraindre ici est une entreprise qui est hors de moyens humains. Les hommes, en effet, ne peuvent pas se rendre maîtres de leur entendement, nous dit-il, par une décision volontaire. En clair, ils ne peuvent pas décider de croire qu'une chose est vraie. Or, qu'est-ce qui se passe? Le persécuteur qui veut imposer va utiliser le recours à la violence, et la seule chose qu'il pourra obtenir, c'est un consentement de façade. Et comme je vous le rappellerai dans un instant, ce consentement de façade, eh bien, il n'est qu'une hypocrisie. S'il s'agit de contraindre à croire, eh bien, les moyens, même violents, qui sont à la disposition du magistrat, sont inadaptés. Et voilà la définition qu'il nous donne de la tolérance dans la seconde lettre. Et vous allez voir que cette définition, elle est à la fois très lapidaire, très ramassée, et empreinte d'un certain réalisme. Voilà ce qu'il dit. « Vous reconnaissez, dit-il, que la force est impropre à convertir aucun homme à une religion. La tolérance n'est rien d'autre que la suppression de cette force. » Autrement dit, vous n'êtes pas tolérant parce que vous croyez aux libertés imprescriptibles qui définissent, eh bien, l'essence même de l'individu libre et égal. Vous êtes tolérant parce que vous ne pouvez pas, par la force, contraindre à croire. Alors, on pourrait dire que c'est un argument a minima, hein. Voilà la première étape de l'argument. Finalement, le souverain ne peut pas forcer, ne peut pas contraindre les consciences. Et l'histoire des guerres de religion, l'histoire de l'Inquisition, est là pour apporter une infinité d'exemples qui viennent appuyer cette position. Deuxième moment de l'argument. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'argument politique. Je vais utiliser la torture, les moyens et toute la série des grands moyens et conséquences, eh bien voilà, je n'obtiendrai qu'un consentement de façade. Donc, être tolérant, c'est tout simplement éviter de faire usage d'une force qui, de toute façon, ne produit aucun résultat pertinent de ce point de vue. Alors certes, le souverain peut, nous dit Locke, forcer les individus à être extérieurement conformes au culte établi. Et souvenez-vous, c'est la position de Hobbes. Qu'est-ce qu'il nous dit Hobbes? Il nous dit, ben voilà, on distingue dans l'individu deux éléments. Sa conscience intérieure et ce qu'il appelle le fort externe. C'est-à-dire la manière qu'il a de s'exprimer et dans l'espace public, ça n'est pas son terme, c'est moi qui l'utilise comme ça, eh bien, il doit se conformer à ce que dit l'autorité. Autrement dit, il doit faire comme. Alors, pourquoi cette solution n'est pas retenue par Locke? Eh bien, ici, on arrive au deuxième moment de l'argument, et l'argument est religieux. Il consiste à dire que contraindre à respecter de l'extérieur le culte officiel, c'est une entreprise qui est contradictoire dans les termes. J'explique. L'argument est très simple. Au fond, celui qui persécute, on peut admettre qu'il persécute pour de bonnes intentions. C'est-à-dire, le persécuteur est convaincu du bien fondé de sa croyance. Et finalement, il cherche le bien, le salut de celui qui est en perdition parce qu'il est un hérétique. Il croit mal, et donc il se perd. Et donc, moi en tant que persécuteur, je le contrains évidemment à vouloir croire autrement, et de ce point de vue-là, eh bien, mon intention est bonne. Mais, nous dit Locke, si le persécuteur amène les persécutés à professer de leur bouche, dit-il, ce qu'ils ne croient pas en leur cœur, dit-il, alors le persécuteur fait de ses sujets des hypocrites. Et, c'est-à-dire, des individus qui vont contre leur conscience. Alors attention, c'est ici que c'est intéressant. Puisque la conscience oblige chaque individu en toutes circonstances, et puisque si je vais contre ma conscience, je commets un péché, puisque je ne crois pas ce que me dit ma conscience, puisque je crois ce qu'on m'impose de dire que je crois, alors le magistrat, le persécuteur, entrave de fait la possibilité du salut pour les sujets. Parce que si ce salut n'est pas d'emblée acquis, alors il est sûr que si je suis hypocrite, il est définitivement impossible. Autrement dit, le magistrat qui ferait usage de la violence pour contraindre les individus à aller contre ce que leur dicte leur conscience, fait de ces individus des pécheurs qui seront définitivement ou qui s'aliéneront définitivement la possibilité du salut. Autrement dit, ici, Locke nous explique tout simplement que sur le plan religieux, une telle politique de contrainte, c'est-à-dire une telle méconnaissance de ce que peut être la force des convictions dictées par la conscience, eh bien, une telle méconnaissance fait du souverain quelqu'un qui peut commettre un péché considérable puisqu'il fait de ses sujets des pécheurs qui s'aliènent définitivement à la possibilité du salut. Autrement dit, utiliser la violence pour contraindre les sujets, c'est réduire ces sujets à l'état de péché parce que vous ne pouvez pas, nous dit ici, encore une fois, Locke, contraindre quelqu'un à croire ce qu'il ne veut pas croire. Alors, conséquence de tout ceci, et là, Locke est parfaitement cohérent, et cette conséquence, elle consiste à dégager de ces deux arguments, l'argument politique et l'argument, entre guillemets, théologique, une règle générale de conduite politique. Et voilà En quoi elle consiste, cette règle? C'est que tant qu'un individu, par ses croyances, ne nuit en rien aux intérêts temporels du souverain, des concitoyens, eh bien, ses actions doivent demeurer libres. Autrement dit, il faut tolérer politiquement la possibilité d'avoir des convictions religieuses différentes tant que ces convictions n'entravent pas la sécurité, la liberté et les biens de tous les sujets citoyens. Et dans ce cadre-là, chacun est libre, nous dit encore Locke, d'entretenir, de diffuser ses croyances, pour peu qu'elles respectent cet impératif pratique, qui est celui du respect des conditions de la sécurité, de la liberté, des droits et des biens de chacun. Vous voyez bien ici, à travers cette argumentation, que la préoccupation première de Locke, ça n'est pas de trancher sur le contenu des croyances. C'est simplement de dire les raisons pour lesquelles le souverain ou le pouvoir politique n'a pas intérêt à intervenir, à s'ingérer dans les affaires spirituelles des individus. Au fond, l'argument le plus efficace ici, c'est celui qui consiste à dire que si le souverain ambitionne d'imposer des croyances, eh bien il fait un usage irrationnel de sa force et de ses moyens, pour les raisons que je viens d'indiquer. Il n'est pas possible d'imposer de manière authentique un type de croyance religieuse, et de ce point de vue, le recours à la contrainte et à la persécution sont donc disqualifiés. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ceci pour le propos? Tout d'abord, une première remarque s'impose. C'est que c'est précisément en raison de la nature particulière de la conscience de chaque individu, ici, que Locke remet en cause la légitimité d'un pouvoir de persécution ou de contrainte sur les croyances religieuses. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pour le dire d'une autre manière, c'est que l'individu ne peut pas volontairement maîtriser ce qu'il croit. Et que donc, il faut abandonner cette idée qui a été à l'origine de tant de massacres et de tant de guerres, il faut abandonner cette idée de reconstruire l'unité politique du royaume à travers l'unité du dogme ou de la croyance religieuse. Il faut donc accepter, en raison même de cette très particulière spécificité de la conscience individuelle, il faut accepter de reconnaître que les deux ne peuvent plus aller ensemble. Ou plus exactement, que parce que les deux ne peuvent plus aller ensemble, cela ne veut pas nécessairement dire que ce soit le chaos. Alors, deuxième remarque, c'est que là où Hobbes avait imposé l'idée qu'il fallait une seule autorité qui tranchait les querelles d'interprétation, souvenez-vous, les querelles d'interprétation sur les textes sacrés, etc., eh bien Locke franchit un pas tout à fait décisif. Il n'impose pas de séparer une conscience intérieure et une liberté de parole, laquelle serait en quelque sorte contrainte. Il reconnaît simplement que on ne peut pas maîtriser ce que la conscience peut nous dicter. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on peut, remarque 3, encore dire par rapport à la question qui est la nôtre? Locke est tout simplement en train de reconnaître la consistance de la subjectivité à travers la figure de la conscience, conscience individuelle, dont, ici en tout cas, dans ce cas précis, eh bien, ni même l'individu ne peut être maître. Et il faut reconnaître ici cette réalité comme faisant partie de l'individu citoyen et comme impliquant de penser autrement la relation entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Conséquence de tout ceci, ça n'est pas dit comme ça, mais c'est évidemment ce que ça veut dire, c'est que toute politique religieuse est une absurdité, est une contradiction dans les termes. On peut donc dire que d'une certaine façon, ces lettres sur la tolérance de 1686 sont liées, évidemment, à une certaine compréhension de ce que c'est que le pouvoir politique, et en montrant l'absurdité de toute politique religieuse, sous-entendu ici de toute politique chrétienne, eh bien, elle produit un effet absolument considérable qui consiste à établir les droits de la conscience individuelle en face des empiétements du pouvoir. Alors même si la thèse sur la tolérance n'est pas ici posée par Locke comme on pourra la poser au XVIIIe siècle, notamment quand on regarde comment la déclaration, les déclarations des droits de l'homme et du citoyen dans les énumérations classiques font valoir la liberté de penser, la liberté de conscience, etc., etc., comme autant de droits naturels qui caractérisent l'individu libéral au sens classique du terme. Il apparaît quand même que Locke est bien ici un moment tout à fait considérable dans la définition de cet individu qui est d'une part doté d'une conscience. Et d'une conscience dont la caractéristique, c'est qu'elle ne peut pas être contrainte par le pouvoir politique. Et là, il y a quelque chose quand même qui est extrêmement moderne, me semble-t-il. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ceci pour le problème du droit de résistance ? Ici, je vais faire encore quelques remarques pour montrer qu'il existe évidemment un lien. Première chose, si vous avez bien compris ce que j'ai dit à propos de la religion et du fait que le pouvoir souverain ne peut plus contraindre l'individu, cela veut dire que la question de la croyance religieuse n'est plus affaire d'une décision politique et qu'elle relie directement l'individu, sa conscience et Dieu. Autrement dit, ce qui est nouveau, ce qui est décisif, c'est que dans l'espace de la croyance religieuse, le rapport à Dieu ou le rapport au transcendant est un rapport individualisé. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Alors cette question de la croyance, qui n'est plus une question qui porte sur la décision politique et qui relève d'un rapport intérieur, de ma conscience avec mon Créateur, eh bien, cette individualisation du rapport au transcendant, elle met au premier plan quelque chose de l'individu, qui est la conscience, et qui est une conscience qui ne peut pas être contrainte. Mais il y a encore autre chose. Cette individualisation du rapport à Dieu, elle s'accompagne de la reconnaissance d'une certaine force, de ce qui en émane. Les convictions ou les croyances ne peuvent pas être contrainte. C'est donc que l'individu, ici, doit être reconnu, non seulement parce qu'il a une conscience, mais parce que cette conscience, elle fait état de croyance, de représentation. Mais il y a encore autre chose. Troisième conséquence. La position de Locke, ici, elle permet d'admettre qu'une société politique peut être stable, sans conflit, avec cette idée que l'on reconnaît ainsi ce qui fait la force des convictions individuelles, pour peu que le souverain se limite à faire respecter la liberté les biens et la sécurité. Autrement dit, le pouvoir politique doit restreindre sa sphère d'intervention à ce qui va permettre de préserver les conditions des échanges stables entre les individus. Et cette préservation, elle est totalement distincte de la question religieuse. D'une certaine manière, ici, on va retrouver quelque chose comme un aspect du libéralisme classique, où on va séparer ce qui relève du domaine des fins. Après tout, la croyance en Dieu, ça relève d'un dessein personnel, d'une finalité qui est le propre de l'individu, qui n'est plus le propre de l'État, du souverain. Sachant que le souverain, lui, va voir son mandat en quelque sorte requalifié et limité. Et oui, on est déjà dans la question de la limitation de l'intervention de l'État, si je puis dire, avec des termes anachroniques, limité à la gestion, permettez-moi ce terme encore anachronique, des moyens ou de la légitimité des moyens qui vont permettre aux individus d'accomplir leur liberté, leur bien, leur propriété, etc., etc. Le travail. Autrement dit, c'est pas simplement que nous avons affaire à une individualisation du rapport au transcendant et au fait que la question religieuse échappe à l'orbite ou à la zone d'influence du pouvoir politique, c'est que, en même temps, ce pouvoir souverain voit sa sphère d'intervention limitée à la simple question de la préservation et de la sécurité de la circulation des moyens et des biens. Ce qu'on va appeler les libertés individuelles, ce qu'on va appeler les droits de l'individu. Et cette mission, elle exclut toute forme d'excès, d'immixion, d'intrusion dans le domaine des croyances et des convictions. Et les termes du contrat, puisque chez Locke, comme chez Hobbes, ce qui va donner naissance au souverain, c'est un contrat qui engage chaque individu avec le magistrat, et bien les termes du contrat portent précisément sur cette limitation. Au fond, les individus sans pouvoir commun ne peuvent pas coexister, un peu comme chez Hobbes, ils rentrent dans un état de guerre permanente. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'individu rationnel, ils décident de passer un contrat et de constituer un souverain qui les représente. Mais les termes de ce contrat, volontaire, est basé sur la raison, parce que chaque individu étant raisonnable, il va accepter de se faire représenter par un magistrat qui va gouverner au nom de tous. Et cette délégation, elle repose sur les termes précis d'un contrat qui indique les domaines où le souverain peut intervenir. Et toute transgression peut alors être interprété comme un non-respect des termes du contrat et, du coup, peut ouvrir une période de grande contestation où chaque individu peut justifier rationnellement de son refus d'obéissance. Peut-être faut-il encore ajouter cette précision pour bien comprendre ici l'intérêt du raisonnement de Locke. C'est de dire que l'individu, ça n'est pas simplement une conscience, c'est aussi une raison. C'est-à-dire une capacité à argumenter et donc à décider volontairement un certain nombre de choses. La possibilité de nouer le contrat qui va relier le peuple des citoyens et le magistrat, elle repose très précisément sur la volonté, éclairée par la raison. Autrement dit, les individus qui sont éclairés par la raison, et on voit bien ici apparaître progressivement ce qui va être un thème extrêmement important au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. C'est l'idée que la raison, lorsqu'elle est bien orientée, peut donner les justifications et orienter la conduite, les décisions, les actes. Et bien ici, c'est très précisément de cela dont il s'agit. C'est que le souverain est constitué par des individus qui, faisant usage de leur raison, décident volontairement un contrat qui les unit avec les magistrats. Mais ce contrat, il consiste précisément à préserver la vie, la sécurité et les biens des personnes. Au-delà, eh bien, il y a une transgression, un excès qui peut devenir l'occasion d'une contestation et d'une désobéissance. Alors, ce qu'il faut bien comprendre ici, ce sera la dernière remarque que je ferai de façon un peu précise sur Locke, c'est que c'est la force des raisonnements individuels, de la raison bien orientée, qui peut permettre à l'individu de deviner, d'identifier que le magistrat a transgressé les termes de son contrat. Ça n'est donc pas le recours à une autorité divine, transcendante, ça n'est pas la confiance dans l'autorité de la parole du souverain, c'est la confiance dans la puissance de la raison individuelle qui argumente, raisonne et éclaire chaque individu sur ce qu'il peut faire ou ce qu'il devrait faire. Alors, au terme de ce parcours, on voit bien que Locke a accompli un déplacement décisif, que le raisonnement qui lui permet, sur le plan de la tolérance, de disqualifier la politique de contrainte et de persécution du pouvoir au nom de l'idée qu'il est possible de coexister et d'avoir des convictions différentes, la possibilité qui est donnée à l'individu raisonnable de faire usage de sa raison pour identifier les principes au nom desquels le souverain peut décider et le représenter, donne une définition de l'individu comme étant la pièce majeure du dispositif. Qu'est-ce que c'est que l'individu ici? C'est deux choses. C'est une conscience, et une conscience qui est portée par des convictions et par des croyances, mais c'est aussi une raison qui argumente et qui va poser rationnellement un certain nombre de faits. Qu'est-ce qui différencie ici Locke de Hobbes? C'est tout simplement que Locke récuse l'idée que l'autorité de la parole puisse reposer uniquement sur l'autorité d'une position institutionnelle. C'est que Locke reconnaît que l'autorité de la parole peut aussi et doit reposer sur l'autorité de la raison. Et c'est donc les conditions d'utilisation de la raison qui vont constituer le dernier socle, et le socle moderne, en théorie on n'en est pas sorti, en pratique on n'y est peut-être pas rentré. Mais bon, en théorie en tout cas, on peut dire les choses de cette façon, c'est qu'effectivement, l'argument rationnel devient en quelque sorte la dernière autorité. Et quand on demande, dans un espace de confrontation, à une personne publique de se justifier, c'est ça. C'est que l'on reconnaît implicitement que si l'argument est tenable, eh bien, il emporte quelque part une certaine décision. Autrement dit, ce qui va décider d'entrer en obéissance ou en désobéissance, c'est ici la force de l'argument rationnel. Voilà donc le terme, si je puis dire, de cette histoire qui nous a conduit des premiers monarchomaques jusqu'aux premiers grands libéraux, penseurs libéraux individualistes, qui permet justement de penser qu'il est possible de justifier individuellement une conduite de désobéissance en la fondant sur des arguments rationnels, parce que tout individu se définit par un égal droit d'accès à la raison et à l'utilisation de la raison. Alors cette histoire, je l'arrête ici, et je voudrais simplement maintenant, par quelques mots de conclusion, je vous rassure, c'est quasiment terminé, dire comment, à partir du XVIIIe siècle, suggérer, et c'est une autre histoire, comment la question de la résistance va être posée. Vous avez remarqué qu'ici, sur toute l'histoire que j'ai très maladroitement dessinée, ce qui était posé comme un principe général, c'était est-ce qu'on a le droit de résister ? Quelles sont les raisons qui font que je peux justifier, même si je ne peux pas le faire, que je peux justifier d'un acte de désobéissance ? Hume, au XVIIIe siècle, lui, va complètement renverser les termes de la question et dire le problème, ce n'est pas tellement de savoir si on a le droit ou non de résister. C'est une question beaucoup plus intéressante. Enfin, non. C'est une autre question qui se pose. La question, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui résistent ? Qu'est-ce qui fait que, dans telle circonstance, tout d'un coup, on observe, historiquement, des phénomènes de résistance, de rébellion, de désobéissance ? Autrement dit, la question, c'est pas est-ce que ces gens ont le droit de désobéir ? La question, c'est qu'est-ce qui fait que, historiquement ou empiriquement, dans une situation donnée, des gens ont réussi à résister ou à se révolter. Autrement dit, le problème, c'est pas tellement de partir d'un principe général, de droit, qui consisterait à dire au nom de quelle valeur ou au nom de quel principe je peux désobéir au souverain. La question qui se pose, c'est une question positive, historique, et non pas une question d'abord philosophique, c'est de dire, voilà, entre 1630 et 49, jusqu'à la Restauration même, eh bien, il y a des rébellions, il y a des révoltes, il y a des gens qui s'insurgent, il y a des massacres, etc., etc. Point d'interrogation, pourquoi ? Donc il ne s'agit pas de dire, ils ont raison ou ils ont tort. Il s'agit de prendre l'événement dans toute son empiricité et de l'expliquer. Et du coup, le problème, ce n'est pas une question générale qui consiste à réfléchir sur la légitimité d'un droit, c'est une question historique, factuelle, empirique, qui consiste à analyser les circonstances dans lesquelles peut advenir des phénomènes ou un phénomène de résistance. Autrement dit, on passe d'une question morale, éthique, philosophique si vous voulez, qui consiste à réfléchir sur la question du principe, la condition de possibilité, à une analyse historique et politique, où la résistance est d'abord appréhendée dans sa positivité, c'est-à-dire dans le fait qu'elle existe, qu'il y a des phénomènes, et qu'il s'agit de les comprendre, c'est-à-dire d'en donner les raisons. Éventuellement, dans un second temps, de se poser la question de savoir si ces raisons sont légitimes ou non. Je vous remercie.